philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 19 mars 96.
Une énergie folle, arrivée réveillé, quoi. On est incapable de se fixer vers une fin. Et je crois que là, le rêve empêche de voir notre finalité. Donc empêche d'aimer vraiment. Soi-disant qu'on se valorise. On ne maintient pas notre vie cette recherche de la fin. Et on se laisse prendre par une sorte d'idéal. Et lutter contre l'idéal, lutter intelligemment, prudemment contre l'idéal, c'est très important. Mais je pense à ça aujourd'hui. Puisque c'est Saint-Joseph, l'homme très prudent. Saint-Joseph savait où était la perle de sa vie. C'est la fin, ce qui finalise. La perle, on vend tout pour la perle. Quand on est prudent, on n'abandonne pas la perle, on n'abandonne pas la finalité. Abandonner la finalité parce que il y a des combats, c'est stupide, c'est un manque d'intelligence pratique, et c'est laisser l'art nous mettre dans le rêve, et ça c'est terrible, parce qu'on perd un temps énorme. Et je crois que ça, c'est le premier moment de la prudence. C'est très exigeant. Et ça s'acquiert dans la lutte. Les luttes les plus terribles, c'est à l'égard de l'imaginaire. Parce qu'elles sont internes. Et on sait très bien que l'imaginaire, quand il y a un sevrage, comme celui de la vie religieuse, est très vite très fort. Et on n'arrive plus à distinguer notre finalité et nos rêves. Et alors, on abandonne la finalité en disant « c'est pas pour nous ». Tout homme doit découvrir sa finalité. On n'a pas le droit de l'abandonner. On vend tout pour ça. Vous voyez, autre chose est de lutter et de savoir qu'il y a la lutte. Autre chose est d'abandonner la lutte. Faire grande attention d'abandonner, de ne jamais abandonner la lutte. Ne cherchons pas un idéal où il n'y aura plus de lutte, qui serait conforme à ce que nous pensons être nous. Et là, c'est la prudence qui nous fait comprendre que l'homme, sur la... l'homme qui veut être un homme, qui veut aimer, doit accepter la découverte de sa finalité dans la lutte. Et ça ne se fait pas tout seul. Vous voyez, le premier amour est un don gratuit. On entre noviciat. Premier amour. Et puis il faut passer après à l'intention de vie. Et ça, ça se fait dans la lutte. Et dire qu'on est dans la lutte, ce n'est pas du tout un signe de non-vocation. C'est au contraire un signe de virilité qui commence. Et on doit accepter cette lutte très forte de découvrir la finalité et de ne pas se laisser prendre par un rêve. Second moment, le passage de l'intention au choix. Là aussi, l'imaginaire nous fait dévier constamment. Et l'intelligence pratique prudentielle doit nous faire comprendre que l'intelligence choisit les moyens qui sont en conformité avec notre fin et non pas les moyens qui sont en conformité avec notre sensibilité et notre affectivité passionnelle. Parce que ce serait le refus de la lutte. Oui, comme c'est curieux. Combien la prudence nous fait accepter la lutte. Et combien l'imprudence nous fait dévier et refuser la lutte. Alors à ce moment-là, on laisse l'imaginaire prendre possession de notre vie. Alors ça peut aller très loin. L'imaginaire peut endormir notre volonté. Et on cherche un idéal de vie. La vie humaine ne vit pas d'un idéal de vie. Elle vit de la découverte d'une fin et des moyens qui nous font, qui nous permettent d'acquérir cette fin. Le choix est le choix de l'ami ou le choix de cette fin et des moyens adaptés à cette fin. Et les moyens les plus proches de cette fin qui sont souvent les plus difficiles. Il ne faut pas reculer devant la difficulté, autrement dit. Reculer devant la difficulté, c'est aller contre le point de vue de la personne humaine. On acquiert sa personnalité, et donc on accepte de lutter. Et lutter, la lutte n'est jamais le signe que ceci n'est pas pour nous. Oui, chercher des moyens qui ne s'acquiert pas dans la lutte. C'est une utopie. Alors, il y a le rêve et l'utopie, qui est encore un rêve. Le rêve, c'est rêver un idéal. L'utopie, c'est de chercher des moyens qui sont toujours en conformité avec notre affectivité passionnelle, sensible. On n'aime pas l'orgueil. On n'aime pas... Et c'est vrai que c'est pas commode d'accepter la lutte. Mais c'est... vous pourrez se rappeler là ce qui est dit dans le livre de Job en disant que la vie humaine est un combat perpétuel, militia, un service militaire. Non, c'est pas très drôle. Évidemment, si on était au service militaire, on dirait c'est pas ma vocation. Oui, attention, transposons pas ça. Le noviciat est un lieu de lutte. C'est très vrai, ça. Et la lutte doit être acceptée comme une condition de notre vie. Et l'imaginaire joue là un rôle constant. Le passage du choix à l'imperium, c'est encore l'intelligence prudentielle qui nous fait reconnaître comment ce n'est pas suffisant de choisir. Il faut se jeter dans la réalité concrète, le milieu dans lequel on vit. Les difficultés propres du milieu. Là encore, ne pas chercher un milieu de vie qui soit en connaturalité avec nos fragilités. Chercher un milieu de vie qui soit en conformité avec nos fragilités, c'est encore un idéal. Un faux idéal, mais c'est encore l'idéal qui vient de l'imaginaire et qui nous fait croire ça et qui nous fait déraper. Alors, Alors on évite tel milieu de vie, parce qu'on dit ce milieu de vie, il est trop fort. Ah, il est trop fort. Il est bon, parce qu'il nous oblige d'aller toujours plus loin. Un milieu de vie qui ne nous porte pas et qui n'exige pas de nous d'aller toujours plus loin n'est pas un véritable milieu de vie pour l'homme. Parce que l'homme doit conquérir cette intelligence pratique. Vous voyez, comme on conquiert l'intelligence spéculative en vue de la contemplation, on conquiert cette intelligence pratique pour assainir le terrain. Il faut assainir le terrain. Et on peut avoir un terrain très imaginatif. Le terrain très imaginatif n'est jamais un signe qu'on ne doit pas être celui qui découvre sa finalité. Tout homme doit découvrir sa finalité s'il veut être une personne. Autrement, il prend la spiritualité de la planche. Vous savez bien ce que dit Peggy. Et je crois que ce que dit Peggy est excellent. Pour illustrer cela, on descend le fleuve. On descend le fleuve. On abdique. J'ai visé trop. Non. Oui, ce que je vous disais hier, Saint Joseph n'a pas visé trop. Alors j'ai venu lui montrer que c'était bien. Il a eu un moment de tentation, de recul. Il a cru que c'était bien ça, de recul. Saint-Joseph n'est pas l'homme du recul. C'est l'homme de la conquête. Et ça, c'est tellement important pour nous de comprendre que la personne humaine se conquiert. Et c'est au niveau prudentiel, je n'ai pas assez insisté là-dessus, c'est au niveau prudentiel que la conquête se fait. Et que celle-là, elle est sensible. La conquête... par rapport à notre vie contemplative, est beaucoup moins sensible. Elle implique quelque chose de très spécial. Il faut conquérir aussi cela, la recherche de la vérité. Mais la recherche de point de vue prudentiel, d'une finalité concrète, l'ami. Ça, c'est quelque chose de très, très fort. Et c'est dans la lutte. L'ami ou le moyen pour nous qui nous permet d'atteindre notre fin. Il faut comprendre que le choix doit se finaliser ultime, l'impérium fait ceci. Vous savez, quand vous regardez des courses à obstacles, le cheval, quand il voit l'obstacle, a toujours envie de s'arrêter. Il a envie de sauter. Il faut le tenir très fort pour cela. C'est un signe. L'impérium, c'est se jeter à l'eau. C'est un obstacle. Et au fond, c'est très curieux que très souvent, là encore, l'imaginaire nous empêche de passer à l'impérium. On fait un détour stratégique. On dit, oh, c'est pas pour moi, je vais attendre. Le recul. Et alors, l'obstacle, on en a peur. Alors que c'est justement là où on montre son intelligence pratique, prudentielle, pas artistique. L'intelligence artistique fait plutôt qu'on détourne les obstacles. Et l'intelligence prudentielle nous montre l'obstacle dans toute sa force. c'est les saints, moi. Tandis que quand il s'agit vraiment de poser un acte où on se manifeste, où aux yeux de tous, on s'engage, il y a toujours des obstacles. On a peur et on recule. Et on ne pose plus cet acte particulier, fait ceci, qui est l'acte propre de l'intelligence pratique. C'est là où on voit si on a affaire à quelqu'un de prudent. Celui qui contourne toujours l'obstacle, se laisse aller au rêve, se laisse aller à un idéal de vie. Je pourrais prendre autre chose. Attention. Je pourrais détourner cet obstacle. Ce sera plus facile. Comme ça, je ne suis pas avoir d'échec. Vous voyez, la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est-à-dire la peur du combat. On met alors très fort en lumière nos vulnérabilités. La découverte de nos vulnérabilités, c'est excellent, mais il ne faut pas y rester. L'homme prudent ne demeure pas dans ses vulnérabilités. Il les dépasse toujours. Parce que les vulnérabilités sont faites pour être dépassées. Et ça, c'est l'imérium. Dès que vous découvrez une vulnérabilité, il faut la dépasser. Et maintenir le point de vue de la finalité. Vous voyez, c'est très grand la prudence. C'est cette conquête sur l'imaginaire. Or, on vit un monde imaginaire aujourd'hui. Tout le monde le sait. Hein. L'imagination n'a jamais été autant nourrie qu'aujourd'hui. Quand on dit société de consommation, il faut le comprendre du côté imaginaire. Société de consommation imaginaire, la télévision, le cinéma, tout ça nourrit l'imaginaire de façon prodigieuse. Alors, le sevrage de la télévision, de l'imaginaire, pour certains est insupportable. Je me souviens de ce journaliste qui voulait entrer. Il n'est pas resté longtemps. Le sevrage imaginaire de l'imagination était trop fort. Vous ne pouvez pas. Alors, au fond, on reste superficiel. On fait comme tout le monde. Et c'est-à-dire, c'est pas fameux de faire comme tout le monde. À la place de voir les obstacles et de les dépasser, on fait tous les tournants possibles. Et enfin, l'imaginaire joue dans la tension pour réaliser quelque chose jusqu'au bout. Il faut cette attention, cette application, l'usage, ce qu'on appelle, on use de ces différentes facultés. Je crois que c'est très important dans une vision de la prudence au niveau personnel, de comprendre que l'acte prudentiel, c'est celui qui n'hésite pas de voir en face ces cinq poussées imaginaires, de les détecter dans notre vie. Notre examen de conscience philosophique à l'égard de notre personne humaine doit porter énormément là-dessus. Dans quelle mesure je suis victime de mon imaginaire? Et si je suis victime de mon imaginaire, je sais que je ferai la planche toute ma vie, comme tout le monde fait. Et je n'aurai pas le courage de remonter à la source. Yeah. aller, je vais prendre une autre route. Mais autrement, non. On doit aller jusqu'au bout de l'acte prudentiel contre toutes les imaginations. Alors, oui, je mets en nota bene. Vous pouvez mettre en nota bene parce que c'est plus de la d'une éthique chrétienne qu'une éthique quoi que au point de vue purement éthique et au point de vue purement recherche de la personne, c'est intéressant de regarder la physionomie des saints. La physionomie d'un saint Joseph, c'est l'homme prudent, selon toute la tradition. C'est-à-dire l'homme qui ne s'est jamais laissé duper par l'imaginaire. Chaque fois que vous vous laissez duper par l'imaginaire, séduire par l'imaginaire, vous commettez une faute. Vous commettez une imprudence. Vous faites la planche. Et vous n'avez pas le courage de regarder l'obstacle en face. Dire, mais c'est ça que je dois faire. Même si de fait, je prends un tout petit peu de recul pour mieux sauter. Je n'abandonne pas ma finalité. Parce que je sais que je n'ai pas le droit d'abandonner. C'est rude, ça. Vous voyez, la prudence montre dans le concret de ma vie comment je peux avoir en main l'orientation de ma vie. Je passe l'affectif à l'effectif. Et c'est ça, le point de vue de la personne humaine, au point de vue prudentiel. La lutte contre l'idéal. Aujourd'hui, on ne présente aux personnes humaines, aux jeunes, qu'un idéal, et non plus une fin. Alors, il faut être très attentif à ça. A plus ou moins de lumière pour détecter ce qui est l'imaginaire et ce qui est le bien réel. Et le détecter jusqu'au bout. La prudence va s'allier tout de suite la justice. Ah, la justice à l'égard des autres. personne humaine implique le respect de l'autre. Chaque fois que vous ne respectez pas l'autre, vous manquez de justice. Mais quand le respect de l'autre devient tyrannique, à ce moment-là, vous avez le devoir de lutter contre. Parce que c'est plus son droit, ça devient un tyran. Et vous n'avez pas le droit d'être la proie d'un tyran. Vous n'avez pas le droit. Parce que nécessairement, les autres en pâtiront. La justice consiste à lutter contre l'injustice de tous les tyrans. Et la personne humaine consiste à faire qu'en face de toutes ces tyrannies, politiques ou amicales, mais quand elles sont des tyrannies amicales, ça devient politique, parce que ce n'est plus amical. Un ami n'est jamais un tyran. Et dans la mesure où l'ami commence à devenir un tyran, faut être sûr que c'est la mort de l'amitié. Rien ne tue davantage l'amour d'amitié que la tyrannie. Parce que c'est l'accaparement. On accapare pour soi, on prend pour soi. Donc il faut avoir le sens très aigu des droits de l'autre et de ses propres droits. Puisque la personne humaine implique qu'on ait pour soi cette connaissance. Connais-toi toi-même. C'est au fond connaître les droits de sa personne, les droits de vie, de vivre et de croître, les droits de conquête. La prudence s'allie. La force. La vertu de force. Parce qu'on doit lutter. La lutte, c'est pour nous permettre d'être fort. Si on avait vécu dans du coton, c'est-à-dire si on a eu une enfance d'enfant gâté, ça arrive. Ça peut arriver, on n'en peut rien. On a créé autour de nous un milieu qui fait que dès qu'il y avait un obstacle, oh, mon petit chéri, fais autre chose. C'est pas étonnant. Alors on a enlevé la lutte. Et quand on enlève la lutte, on maintient un gagatisme précoce. Et ça reste pour toute la vie, hélas. On ne peut plus, on n'arrive plus à lutter. La force, c'est accepter la lutte. C'est pas rechercher la lutte pour elle-même, mais c'est l'accepter. Alors la force, elle a deux visages. Saint Thomas les souligne très fort, et je crois que c'est très juste. La force, c'est attaquer. La force, c'est bâtir. Et il y a un équilibre entre les deux. Il ne faut pas dire, moi, je vais tout le temps bâtir. Jésus lui-même nous dit que quand on vous donne une gifle de présenter l'autre jour, mais Jésus, quand il est à la fin de sa vie, en face des grands prêtres, et qu'il reçoit une gifle d'un des soldats ou un des gardes du grand prêtre, ne présente pas l'autre joue. Il dit, pourquoi tu me gifles? Si j'ai mal parlé, dis-le. C'est très significatif, ça. Et c'est important. La patience consiste à dire, tiens, j'ai deux joues. Ça, c'est la patience. Mais quelquefois, qui énerve encore plus l'autre, c'est très curieux, ça. Alors, ce n'est plus, c'est savent pas ce qu'on doit faire. La patience, on pâtit, on se tait. On attend que l'orage passe. Parce qu'on sait que plus l'orage est violent, plus il est rapide. Mais on pâtit aussi devant des orages qui durent toute la journée. Et quelquefois plus longtemps qu'une journée. On est patient, on pâtit. Et l'agrédit, il s'agit d'attaquer, doit toujours partir de la patience. C'est la patience qui est l'aspect le plus profond de la force. Et voyez, ça se comprend dans la lutte. C'est dans la lutte qu'on voit ce que c'est que la force. Et il y a une alliance très grande entre la force et la prudence. La prudence aime la force. C'est-à-dire de mobiliser en nous notre irascible. Puisque la force appuie sur l'irascible. Et saint Thomas considère que l'irascible, c'est la passion la plus proche de l'intelligence, de la raison. La patte à la main. Et ainsi de suite, vous voyez. plus-value à l'acquisition de la tempérance. La tempérance, c'est rendre humain vaseux, mais ce sont ces nappes de boue qui demeurent. La visite des égouts de Paris est une visite extrêmement curieuse. Je connais un ingénieur qui est spécialisé dans les égouts. C'est quelque chose. Alors, il m'a invité à faire la visite des égouts de Paris. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'attrait pour ça, mais ça fait rien. C'est quand même assez curieux. Ça, c'est le concupiscible. Le concupiscible qui s'allie à l'imaginaire. C'est terrible. Et l'irascible qui s'allie à l'imaginaire garde toujours un peu de noblesse. Tandis que le concupiscible, quand il s'allie à l'imaginaire, c'est vraiment les égouts. Tous les refoulements de jouissance, tous les refoulements de désir, d'accaparement, ça donne des physionomies, vous voyez, qui sont pas agréables du tout, qui empêchent un élan et qui arrêtent d'élan. C'est terrible comme le concupiscible arrête. Ça fait coller. C'est le ver à mille pattes. Il s'élève pas beaucoup le ver à mille pattes. Notre intelligence et qui l'empêche de se réjouissants et charnels. Alors la tempérance consiste à avoir une personnalité humaine qui voit avec exactitude la place de l'aliment dans notre vie. Que l'aliment est nécessaire pour vivre. Il faut bien. Je dois me nourrir. Vous voyez, parce que la répulsion de l'aliment, celui qui ne veut pas manger, celui qui veut rester toujours comme un fil de fer, ça existe dans notre monde d'aujourd'hui. Paraît-il qu'il n'y en a jamais eu autant. C'est pas étonnant, hein, parce que comme c'est une société de consommation, alors on se précipite vers tout ce qui est agréable. Alors, au bout d'un certain temps, il y a une réaction inverse de rejeter tout ça. Et ce n'est pas la tempérance, c'est une forme inverse. Le réalisme de notre corps. Et c'est la tempérance qui est la vertu dans la lumière de la prudence qui nous fait accepter le réalisme de notre corps. De notre corps dans sa jeunesse qui doit pousser, qui doit grandir. Dans notre corps, dans notre vieillesse qui est constamment pour nous une limite à cause de la fatigue. C'est vrai, le poids du corps est différent selon les âges. Et à ce point de vue-là, la concupiscence nous perd, je veux dire, et dans cette lumière-là, la vertu de tempérance qui ennoblit, qui humanise. Devant la confiture, il y aura, ici je le regarde pas, mais il y aura la tempérance liée à la vertu de religion. Qui fait qu'il y a un rythme particulier. Puisque il y a le carême. Et dans toutes les religions, il y a des temps où la tempérance doit aller particulièrement loin. Regardez pour l'islam. Et l'astuce de l'homme qui n'est plus le point de vue de l'attitude religieuse, mais qui est le dilettantisme, qui fait que on va faire des arrangements. C'est très net. Vous n'avez pas le droit de manger tant que le soleil, lui, et dès qu'il est couché, alors à ce moment-là, tout est permis. C'est le royaume des ténèbres. Et il y aurait des choses analogues. Vous savez, dans la tempérance, gouvernée par le point de vue religieux, dans chacune des religions. Très curieux de voir ça. Et la tempérance doit faire comme nous aimons notre corps, comme un moyen l'aimons.